Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Elle.
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 Ça va? On n'entend pas trop que je suis enrhumée, s'inquiète Eye Aïdara, qui nous donne rendez-vous dans un hôtel du 17e arrondissement de Paris, non loin de la porte de Clichy, où elle a ses habitudes. Elle commande un thé vert, qu'elle tente de boire entre deux questions, auxquelles elle répond déjà en apnée. Eye Aïdara est d'un naturel réservé, prudent. Entre exposition inhérente à son métier et désir de ne pas se dévoiler, elle joue le jeu, mais selon ses règles. « Je doute est mon deuxième prénom », dit-elle drôlement, sauf en ce qui concerne sa vocation.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Je suis Marion. Mmh. Enchantée.
Avec plaisir.
Parce que dans les vagues, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois. Ce moment où l'on se sent enfin en adéquation avec soi-même. Un sentiment de cohérence qui arrive parfois vite, parfois tard, quelquefois jamais, qui souvent va et vient, comme les vagues. Comédienne, remarquée et remarquable dans le sens de la fête qui lui valut une nomination au César, ou encore dans la série En thérapie, Eye Aïdara s'est tout de suite sentie à sa place, à la fois libre et protégée, quand elle est montée pour la première fois sur une estrade de bois en CP. Aujourd'hui, elle refuse de se laisser enfermer dans un rôle. Je suis Marion Ruggieri. Bienvenue dans Les Vagues, un podcast de Elle. Eye Aïdara, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous vous souvenez de ce jour de CP où vous avez pour la première fois goûté au théâtre, joué sur scène ? Il paraît que ce fut une révélation.
Effectivement, ouais. C'était avec donc mon instituteur qui était lui-même comédien et qui nous a mis sur scène, sur cette petite estrade en bois, et qui nous a fait jouer. Je me souviens, c'était... un extrait du Monstre poilu. Et je me suis sentie un peu comme dans la cour de récréation, mais avec... c'est marrant, c'était une estrade, donc c'est assez limité, mais avec beaucoup de liberté. Et c'est devenu mon terrain de jeu favori depuis.
Qu'est-ce que vous ressentez à cet instant précis ? J'imagine que c'est devant d'autres élèves.
En CP, j'étais pas la meilleure élève, hein, loin de là. Je me suis améliorée un peu plus tard. Mais alors là, il y a cette sensation que déjà on arrive à capter l'attention des autres et on arrive à jouer avec ça. On arrive à capter l'attention du prof. Ça aussi. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Parce que effectivement, ça se ressentait pas dans les cahiers, peut-être. Mais alors là, quand j'étais sur scène, je me suis sentie regardée différemment. C'est un petit peu narcissique de dire ça, mais j'ai senti qu'il admirait ce que je faisais. Et plus je le sentais, plus j'essayais des choses. Voilà. Plus j'avais envie d'aller plus loin. Et lui aussi était comme ça. Souvent, il aimait bien dire ça. Ah non, propose-moi autre chose. Mais quoi ? Je sais pas. Cherche. Il me disait souvent ça, cherche, cherche, cherche. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a amusée très très longtemps dans mon enfance, quand il me disait cherche, cherche. Et plus je cherchais, plus j'inventais des choses, plus je sentais qu'en fait, j'avais comme une carte blanche, quoi. J'avais possibilité de faire ce que je voulais. Et puis c'était OK. Voilà, la scène me protégeait.
Vous protégez de quoi ?
de tout. C'est-à-dire que sur scène, j'avais le droit de faire des bêtises. La scène me protégeait de la répréhension, de la punition de ceci, de cela. Alors, j'insultais pas, non, mais je pouvais faire des cabrioles, je pouvais dénoncer, on pouvait aussi dire ce qui n'allait pas, en rigolant, en taquinant, toujours en restant dans une proposition de jeu. Mais voilà, la scène, c'était un cadre où je me sentais libre et à la fois protégée.
Vous étiez quel genre de petite fille ? Il paraît que vous étiez toujours la déléguée de classe et que vous ambitionniez de devenir avocate, c'est vrai ?
Ah, je l'étais souvent. Quand je suis rentrée en sixième, ouais, j'ai été souvent déléguée. Ouais. J'aimais bien assister au conseil, j'aimais bien défendre aussi, prendre la parole pour mes camarades. Ouais, j'aimais bien défendre les plus faibles. Je me suis posé la question récemment et j'ai toujours pas encore trouvé la réponse. Mais c'est vrai que dans les cours de récréation, on est plein, on est tous un peu différents. J'étais dans une école assez, en tout cas en primaire et au collège, où il y avait beaucoup de diversité. Et alors, je sais pas pourquoi ceux qui avaient une forte corpulence et qui étaient sujets à moquerie, à taquinerie, je sais pas pourquoi, j'avais toujours envie de les défendre et que ce soit mes amis, j'avais toujours envie de taper.
Et vous êtes toujours comme ça aujourd'hui ? Vous avez toujours cette charge physique en vous ?
Moins, beaucoup moins. En tout cas, c'est moins évident. C'est, non, je vais pas te défendre parce que t'as du bidon. Hein. Pas forcément. Je pense que déjà, on voit plus quand quelqu'un a du bidon. On s'en fout un peu. Et tu regardes plus les personnes, quoi. Et, voilà.
À la maison, vous occupez quelle place dans la fratrie ?
Je suis la quatrième fille, je suis la dernière fille. On est six. On est quatre filles et deux garçons. Et moi, je suis la quatrième fille. Je suis un peu... Oui, faut le dire, j'étais un peu l'enfant gâté, ouais.
Le théâtre, le cinéma ont une place chez vous. Il paraît que votre papa est fan de western.
Ah ouais, mon père, il adore les westerns, les films de cow-boy, les films aussi de guerre, tout ça. Il est très fan. Et puis, il aimait bien les VHS, quoi. Il achetait vraiment beaucoup, beaucoup de VHS. Aujourd'hui encore, il y en a encore. Il reste encore plein de choses à la maison. Ils ont une deuxième maison au Mali. Et donc, il a rapatrié sa collection, son vidéoclub là-bas. Mais, la maison, il y a toujours eu, des magnétoscopes, plein, des vidéos partout. Mon père, il en ramenait vraiment tout le temps, toutes les semaines, tous les week-ends, il ramenait, travaillait pas le week-end, donc tous les week-ends, il faisait le marché. Aujourd'hui encore, il fait les marchés. Et il trouvait des VHS, il achetait plein de collections. Et il avait des VHS qui n'étaient pas trop son truc, qui mettaient un peu de côté ou quoi. Et moi, c'était là-bas que j'aimais. Parce que c'était accessible, parce que les autres, ils les mettaient un peu en hauteur pour qu'on ne touche pas. Et ces petites hors-séries, là, des trucs où il n'était pas trop fan, où c'était peut-être plus mon truc, beaucoup de films français. Beaucoup, moi, j'étais très attirée quand tu voyais une pochette avec des films avec des enfants. Forcément, je m'identifie, je prenais.
Le premier choc cinématographique, justement, c'est quoi ? C'est où ?
C'est alors avec ça, qui ? C'est avec l'école. C'est en sortie avec l'école, c'était Podade. En fait, on avait un travail à faire quand on est parti voir ce film. On devait relever les mots de vocabulaire qu'on ne connaissait pas et pour se faire un petit lexique. Et après, on avait des dictées ou des questions sur la définition de ces mots. Et moi, je suis passé complètement à côté de cet exercice, mais alors complètement, mais en même temps, je trouve ça fou aujourd'hui, quand j'y pense, de nous faire faire un exercice pareil sur un tel film. Surtout que moi, je suis arrivé, je connaissais le conte, et j'ai vu ce film qui, pour moi, paraissait extrêmement réaliste. Et je crois que ça m'a choqué, ça m'a perturbé. Forcément, j'étais trop jeune pour comprendre un petit peu ce que c'était l'inceste, mais en tout cas, il y a quelque chose de pas normal qui en dégageait, quoi. Et quand j'ai revu le film, cinématographiquement, j'ai aimé ce film, mais je pense qu'enfant, en tout cas, il m'a dérangé quelque part et ça m'est resté.
Est-ce que vous faites des films, enfant ? Est-ce que vous inventez des histoires ? Est-ce que vous interprétez des scènes avec vos frères et sœurs ou avec des amis ou dans votre imaginaire ?
Dans mon imaginaire, beaucoup toute seule, dans le noir, j'ai fait beaucoup. Pas avec mes frères et sœurs. Mais je suis quelqu'un qui, toujours aujourd'hui, hein, pardon, hein, mais je parle beaucoup toute seule. Je joue beaucoup des scènes, je rejoue des scènes aussi toute seule.
Mais des scènes que vous avez interprétées ou des scènes célèbres ou
Des scènes que j'ai interprétées, des scènes que je n'ai pas interprétées, des scènes que j'ai vécues et que j'aurais dû vivre autrement. Et souvent, je me surprends à parler à haute voix, à bouger à haute voix. Et c'est un truc qu'on me dit, j'espère que je ne vais pas devenir folle, mais c'est un truc qu'on me dit souvent. On dit, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu... Et en fait, j'atterris et je me dis, oh là là, putain, j'étais ailleurs, j'étais... Ouais, je suis pas toute seule là-haut. Mais depuis petite, ouais. Depuis petite.
Mais donc, vous rejouez des scènes, parfois, vous rejouez
scènes
de la vie réelle autrement, telles que vous auriez aimé pouvoir peut-être les jouer à l'instant présent.
De la vie réelle, ça, je les joue. Et je me dis ouais, j'aurais dû vivre ça comme ça. Ou alors, si cette scène devait être dans un film, tiens, ce serait bien si elle avait été comme ci ou comme ça. Je rejoue des scènes que j'ai déjà jouées et que je me dis, je ne suis pas allée au bout de cette scène et je les rejoue sous la douche. Alors qu'elles sont déjà en boîte, elles sont déjà faites depuis.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Je rejoue.
Vous avez l'esprit d'escalier cinématographique.
Ça doit être un truc comme ça, ouais. On va faire un tout petit break.
Bien sûr.
Aucun problème.
C'est mieux.
On y retourne. Ah, ça va un peu mieux, là. Pendant combien de temps, mais je sais pas quoi.
Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Alors, vous prenez option théâtre au bac, donc le désir de jouer perdure. Vous faites un doc d'art du spectacle à la Sorbonne. À partir de quand est-ce que ça devient sérieux? À partir de quand est-ce que vous vous dites « je veux devenir comédienne »
À partir du moment où ça devient physique, ça me manque physiquement. Je crois que c'est ça. À partir du moment où dans la vie, il faut un peu choisir là où on va. Donc moi j'ai eu envie de faire plein de choses, de plein de carrières, mais j'ai toujours fait que du théâtre. J'ai eu envie d'être avocate, j'ai pas fait des études de droit. J'ai eu envie de travailler avec les enfants, j'ai rien fait dans ce sens-là. J'ai toujours fait des choses dans le sens du jeu, du cinéma, du théâtre. Qu'à un moment donné, c'est un peu comme un aveu. En fait, quand je suis pas dans cette direction-là, ça me manque. Donc c'est là où je me dis, non, en vérité, c'est ce métier-là que je veux faire, c'est tout simplement.
Vous vous souvenez de l'avoir annoncé officiellement à vos parents?
Non.
Ou ça s'est fait naturellement?
Ça s'est fait naturellement, mais mes parents, contrairement à moi, ils sont moins naïfs. Je pense qu'ils ont compris depuis bien avant moi que c'est le métier que je voulais faire.
Et quelle a été leur réaction? Vous en avez jamais parlé?
Non, alors, si, bien sûr, avec ma mère, si, beaucoup plus qu'avec mon père, parce que mon père, c'est plutôt quelqu'un qui aime que les gens soient heureux, en fait. Mon père, c'est quelqu'un de tellement sage. Et si ça te plaît, c'est vas-y, tu gagneras pas ta vie. mais bon, de toute façon, c'est pas grave, nous, on sera là. Pas grave, mais en même temps, c'est bien de se lever le matin, de faire ce qu'on aime, hein, quoi qu'il arrive. Mon père, il réfléchit comme ça. Ma mère, elle était plus inquiète. Elle s'est dit, ouais, c'est dans la vie quand même. Après, voilà, il faut se marier, il faut élever des enfants, il faut payer des factures. Donc pour elle, c'était un peu plus... elle appréhendait un peu plus. Mais je pense que plus ça avançait, plus elle se décontractait.
Et quel rapport entreteniez-vous avec leur pays d'origine? Est-ce que vous retourniez là-bas pour les vacances ou pour des occasions familiales?
Alors j'y suis allée la première fois assez tard. Je suis allée, je ne sais plus, j'avais 18-19 ans. Et c'est vrai que j'ai été frappée parce que j'ai rencontré donc, ma famille que je ne connaissais pas, enfin ma famille du Mali. J'ai vu ce que mes parents avaient laissé et ça m'a frappée. Parce que c'est vrai que moi, je me suis construit ici, en France, et j'aurais du mal à quitter ce pays. Et mes parents l'ont fait pour diverses raisons. Et j'ai eu vraiment beaucoup de respect pour ça. Je me suis dit, waouh, vous avez quitté tout ça alors que... Ah bon, il y a toute la famille, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de chaleur. Et ils ont réussi à abandonner tout ça. En fait, ils ont fait un sacrifice pour pouvoir élever leurs enfants, pour leur apporter une autre éducation. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans le cœur des choses, oui, j'aurais peut-être pas eu accès aux mêmes écoles, j'aurais pas eu forcément la même éducation là-bas, j'aurais pas pu avoir autant de liberté que j'ai là. Et voilà, je dis, waouh, papa, t'as quitté tout ça et tout. Bravo.
Vous en rapportez quoi, vous, de là-bas ?
Et c'est plein de choses inconscientes. C'est, je me rends compte des racines de mon père, je me rends compte d'où je viens, quand même. Je me dis qu'en fait, j'ai un bagage familial qui n'est pas n'importe lequel. Et ça me nourrit quelque part, ça me construit. Il y a un truc où tu te dis, ah ouais, je suis un peu plus solide, parce que quand on grandit ici, et que c'est vrai que souvent on a des camarades qui ont leur famille là, qui ont leurs grands-parents ici. Moi, j'ai pas connu mes grands-parents, j'ai connu que ma grand-mère maternelle. On leur rend leur femme là, dans tel village, ou dans tel... Quand on va à la campagne, chez des copains et tout ça, et qu'on voit un peu comment leur famille grandissent, c'est ouais, il y a quelque chose de plus concret et nous on sait pas trop parce que j'ai pas vu, mais quand j'y suis allée, je me dis ah ouais, j'ai quand même une histoire assez riche.
Alors vous rejoignez l'Académie internationale de théâtre d'Éric Vigny à Lorient, vous vivez la vie de troupe pendant 3 ans, vous êtes sur scène tous les soirs, vous bouffez du texte comme on dit. Si vous deviez retenir un moment sur ces 3 années, résumer cette expérience en une anecdote.
Ben, je ne peux pas passer à côté d'Avignon, parce qu'Avignon, je ne connaissais pas. C'est la première fois où j'ai vécu Avignon avec Éric Vigny et puis l'Académie. Et c'était assez marrant de voir comment cette petite ville se transforme pour le festival. Et ça m'avait assez frappé. J'ai trouvé ça génial. Et puis de jouer à Avignon. On s'est fait démonter par la presse. Mais alors, vraiment, la pièce a été démontée par la pièce de toutes parts. Toutes parts. On n'a eu que des sales critiques, des critiques très violentes. Et tout ça a fait qu'on était environ à des listes de 150 personnes en attente sur la pièce. Je me dis, c'est fou. On se fait défoncer et on est plein, plein à craquer. Et on m'a dit, c'est ça, la vidéo. D'accord. C'est violent.
Est-ce qu'il y a des moments de découragement, des moments de doute durant ces années d'apprentissage ? Et si oui, liés à quoi ?
Alors, des moments de découragement, oui. Des moments de doute, tout le temps. Ça ne quitte pas. En tout cas, moi, ça ne me quitte pas.
Encore aujourd'hui, vous voulez dire ?
Je doute tout le temps. Ça peut être mon deuxième prénom. Mais à quoi c'est lié, je ne sais pas. Je sais que pendant, en tout cas, ces années d'académie, je sais qu'il y a eu tout un moment, toute une phase où je ne sais pas pourquoi j'avais perdu mon personnage. J'avais perdu, je ne sais pas. C'était un mois de janvier, on avait repris. Et je me suis... C'est dur quand on est sur scène et qu'on sort de scène, on n'est pas content. On n'était pas là, c'était assez violent. Et c'est revenu. Je me souviens exactement de quand c'est revenu. C'était à la Criée, à Marseille. C'est revenu.
Est-ce qu'il y a des, durant ces années, une fois de plus, est-ce qu'il y a des places interdites en raison de votre genre, de vos origines, de votre âge ?
Sûrement, mais en tout cas, moi, je base. Ah, mais je base fort. Moi, rien ne m'est interdit, surtout quand je joue. C'est justement ce à quoi j'ai goûté quand j'étais petite, en sixième. Je peux tout jouer, je peux tout faire. J'ai pas du tout envie d'être cantonnée à quel que soit le genre de rôle. Demain, si on me propose de jouer un homme, j'y vais. Mais pour de vrai, pas genre pas un travesti ou quoi que ce soit, un homme pour de vrai avec un vrai truc. J'y vais, moi, de plonger dans un humain, de comprendre, de le défendre, d'avoir de l'empathie pour un tel ou pour voilà. C'est ce que j'ai appris. C'est comme ça que j'ai découvert ce métier. Et il y a rien qui peut m'arrêter.
Ce qui est la définition même de l'acteur, pouvoir tout jouer. Vous avez aujourd'hui 40 ans. Vous êtes maman. Vous avez triomphé dans le sens de la fête. Du fameux duo Nakache et Toledano dans la série En Thérapie. Avec le recul, quel a été le moment, le jour où vous vous êtes sentie à votre place pour la première fois ?
Comme je vous dis, moi je doute tout le temps. Mais en vérité, je me sens toujours à ma place quand je suis sur scène. Au cinéma, c'est venu peut-être un peu plus tard, puisque j'ai commencé plus tard. Mais c'est vrai que quand je suis au théâtre, je me sens tout le temps à ma place. Je me dis, c'est chez moi. C'est différent, le cinéma. C'est différent. Je crois que je doute aussi au théâtre, mais je doute peut-être plus, ou peut-être parce que je fais un peu plus de cinéma en ce moment, et peut-être parce que j'ai pas de place, en vérité. Ou parce que j'ai pas envie d'en prendre une. En tout cas, j'ai pas envie de m'installer justement dans un genre, dans un type, ou quoi que ce soit. Donc, du coup, j'aime bien quand j'ai une fesse entre les deux. C'est peut-être ça, en fait, ma bonne place.
Question rapide pour finir.
Aïe.
Est-ce que vous vous êtes déjà sentie irremplaçable ?
Oui. En tant que maman.
Est-ce que vous craignez parfois d'être remplacée ?
En tant que maman, non.
Et qu'est-ce qui est déplacé, selon vous ? L'a-t-on jamais été avec vous ?
Qu'est-ce qui est déplacé ? Je crois que le mépris gratuit et déplacé, méprisant avec moi, oui, on l'a déjà été.
Eya Aydara, merci.
Avec plaisir.
Merci infiniment.
Je suis Marion Ruggieri. Vous venez d'écouter Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Cet épisode a été tourné et mis en musique par Sam Jamin, monté par Julia Courtois, produit par Louis Média. La musique est signée Michael Lio. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute de podcast et parlez-en autour de vous. À très vite.